Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les garçons, à demain, belle soirée. Nous c'est parti pour le 18-20 de France Inter. Attention à la marche et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Le journal c'est vous comme tous les soirs pour ouvrir le banc. Amélie Perrier, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi, Amélie, commence avec un salut tout particulier à nos amis et confrères de France Bleu Isère.
Oui, une radio en flamme, mais France Bleu Isère reprend ses émissions ce soir. Ses locaux ont été ravagés par un incendie criminel apparemment. Un média attaqué, mais nos confrères sont au micro. Ils peuvent émettre de nouveau depuis quelques minutes. Le Premier ministre met les opposants aux 80 km/h devant leurs responsabilités. Moins vite, c'est moins de morts sur les routes, selon lui. Il est soutenu par les familles des accidentés. Un plan de protection de l'enfance pour mieux détecter la maltraitance et mieux former les professionnels. Bien, mais pas suffisant, dit le secteur. L'ex-président François Hollande, entendu par la justice à propos de ses confidences sur la mort des deux journalistes de RFI tués au Mali en 2013. Sa version ne colle pas avec les résultats de l'enquête en cours. Et nous irons au Brésil, où la rupture d'un barrage a ravagé toute une région et fait 60 morts et des centaines de disparus. Il neige et les risques d'avalanche s'étendent. Le point météo complet à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Hameau.
À 18h15, un jour dans le monde, en Égypte, ce soir, où Emmanuel Macron est encore jusqu'à demain, 8 ans après la révolution. Qu'est-ce qu'il en a fait de ce pays, le maréchal Sissi? Comment on vit aujourd'hui quand on est égyptien? On en parle avec la première invitée. Ce soir, nous sommes aussi au Maroc, où se battre pour l'IVG, vous l'imaginez, n'est pas chose facile. 19h20, le téléphone sonne, demain tous centenaires. Alors, on nous explique désormais qu'on vivra 100 ans et plus, on se dispute les doyens, les doyennes de l'humanité, même d'un pays à l'autre, mais très très vieux, est-ce qu'on a vraiment envie de l'être? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir 100 ans et plus? Est-ce qu'on a le droit de le dire quand la vie devient trop longue? 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a une demi-heure en Isère, vous avez pu réentendre ça.
Bonjour, bonjour à tous. Difficile de vous dire à quel point nous sommes tout à la fois heureux de vous retrouver et incrédule, le mot est faible, après l'incendie volontaire dont a été victime France Bleu Isère la nuit dernière. Alors toute l'équipe est présente autour de moi. Nous sommes ici accueillis, recueillis, ai-je
voilà,
envie
ça
de
s'est
dire,
passé donc il y a quelques minutes seulement, France 3, hein, Amélie, France Bleu Isère qui émet de nouveau depuis une trentaine de minutes seulement.
Oui, les voix de nos confrères de Grenoble sont revenues sur les ondes. La radio a trouvé refuge dans les locaux de France 3 après l'incendie de ses bureaux la nuit dernière. Incendie volontaire, apparemment. La porte d'entrée a été fracturée. On a identifié deux départs de feu à l'intérieur. S'en prendre à un organe de presse et s'en prendre à un pilier de la démocratie, un symbole, Christophe Vincent.
C'est une certitude, nous dit ce soir le procureur Éric Vaillant. L'incendie est criminel avec un ou deux départs de feu et des traces d'hydrocarbures. Au rez-de-chaussée, tout est dévasté, mais pour le responsable technique, Pierre Vénua, la mémoire sonore n'est pas perdue.
C'est d'évaluer l'état des disques durs, éventuellement s'il y a des choses à reconstruire ou pas. On n'est pas super inquiet pour les archives. Sur le nombre de machines sur lesquelles elles sont, on devrait récupérer pas mal d'archives.
France Bleu Isère est hébergée par France 3 à La Tronche, d'où les émissions ont repris à 17h30, le directeur Jean-Louis Philippe.
On a touché à quelque chose qu'on chérit. La radio, c'est un métier de passion et on a fêté les 35 ans il y a une semaine. 2500 auditeurs invités au summum de Grenoble et d'un seul coup, vlan, le côté noir obscur de la force. Alors on a voulu nous faire rompre le lien avec nos auditeurs, mais le lien, il n'est pas rompu, il s'est même renforcé. Je regarde sur les réseaux sociaux les milliers de messages de soutien que nous avons. La radio, elle existe toujours.
De nombreux auditeurs disent leur solidarité, mais aussi des élus comme Émilie Chalas, députée En Marche.
La succession des incendies volontaires à Grenoble, qui sont trois fois supérieurs à la norme française, montre qu'il y a un message anti-institution, anti-démocratique au fur et à mesure de ces incendies et qui m'inquiète profondément.
Demain matin, France Bleu Isère a prévu une matinale spéciale. Grenoble, Christophe Vincent, France Inter.
Autre incendie symbolique, là aussi, hier soir, la résidence du sous-préfet de Pontivy, dans le Morbihan, a été prise pour cible. Plusieurs cocktails Molotov ont été retrouvés dans le salon, des traces d'effraction sur les portes d'entrée. Il n'y a pas de victimes, personne n'était dans la résidence à ce moment-là. Une enquête est en cours, le ou les auteurs en cours jusqu'à 20 ans de prison.
Des vies épargnées sur les routes de France.
Le Premier ministre a présenté les chiffres de la sécurité routière l'an dernier. 3259 personnes sont mortes sur la route. Un chiffre historiquement bas, s'est félicité Édouard Philippe. Résultat sans ambiguïté, a-t-il commenté. Lui qui défend la baisse de la vitesse limite à 80 km/h sur le réseau secondaire. Une mesure en suspens face à la colère des gilets jaunes. Si Édouard Philippe avertit, chacun devra prendre ses responsabilités si la vitesse et le nombre de morts repartent à la hausse. Il trouve ici le soutien des accidentés de la route et de leur famille. Marie-Christine Casal est la vice-présidente de l'Union des familles de traumatisés crâniens.
Nous, dans nos associations de familles de traumatisés crâniens, ce sont nos enfants, nos conjoints, nos frères et sœurs qui sont touchés, qui sont impactés, qui sont lourdement handicapés. Et on voudrait éviter à d'autres ce qu'on a connu, cette souffrance et ces difficultés pour vivre au quotidien avec un handicap très lourd. Donc on est vraiment très choqués. Le 80 km/h ne résoudra pas tous les accidents de la route, on le sait bien. Il y aura toujours des accidents dus à l'alcool ou aux produits stupéfiants ou aux médicaments ou à d'autres causes. Mais on sait très bien que ça, c'était une mesure très efficace. C'est des vies qu'on ne va pas sauver, c'est des personnes lourdement handicapées. Et d'autant que nous, on attend des mesures pour nos blessés traumatisés crâniens qui n'arrivent pas. On manque d'accompagnement en plus. Et on va nous en rajouter encore une nouvelle couche. Nous, on sait de quoi on parle. Tous les jours, il arrive des blessés dans nos associations et des familles qui s'adressent à nous. Donc on ne comprend pas du tout pourquoi on reviendrait sur cette mesure.
Marie-Christine Casal pour l'Union des familles de traumatisés crâniens répondait à Daniel Messager. Plus de 340 000 mineurs désaccidentés de la vie sont pris en charge aujourd'hui en institution ou en famille d'accueil. Le nouveau secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, a présenté sa feuille de route aujourd'hui pour un accompagnement des parents dès la grossesse, pour une mobilisation de chacun face à la maltraitance, signaler ce dont on est témoin, et pour des meilleurs recrutements et une meilleure formation des professionnels de l'aide à l'enfance. Un plan, Martin Bartoletti, bonsoir.
Bonsoir.
Un plan qui ne rassure pas totalement.
Qui va payer toutes ces mesures? La question inquiète, rien n'a été chiffré. Pour Agnès Buzyn, ministre de la Santé, l'État n'est là que pour superviser.
Égalité de traitement ne veut pas dire centralisation, ça veut dire s'assurer que le service rendu sur le terrain répond à un objectif qu'on se fixe nationalement avec les acteurs.
Message à peine voilé à destination des départements responsables de la protection des enfants. Ce discours énerve l'IS loufoque, il est membre du Conseil national de la protection de l'enfance.
On va encore laisser aux départements la possibilité de choisir si oui ou non ils désirent contractualiser avec l'État. Eh ben non, je veux dire, c'est pas normal que dans notre pays il y ait un tel niveau d'inégalité entre les enfants. Aujourd'hui, l'État doit imposer des mesures aux départements. Ben oui, ça va fâcher peut-être, c'est vrai, certainement, ça va gueuler, mais à un moment donné, les enfants ne peuvent plus attendre.
Mais dans certains domaines, le gouvernement ne pourra pas fuir ses responsabilités. C'est ce que pense Emmanuel Ajon, vice-président du département de la Gironde.
Je crois que l'État sait très bien que la psychiatrie, la pédopsychiatrie, l'accès aux soins, c'est de son ressort. Donc j'espère que nous sommes là face à des politiques responsables et qu'ils ne renverront pas la balle au mauvais moment au département alors que ce n'est pas de leur compétence.
Les concertations prévues autour de cette feuille de route promettent quelques tensions. Les mesures devront être finalisées d'ici l'été.
Martin Bartoletti, merci beaucoup. Une évasion spectaculaire à Tarascon. Deux hommes lourdement armés ont attaqué ce matin une escorte pénitentiaire devant le palais de justice dans les Bouches-du-Rhône. Les agents qui emmenaient un détenu de la prison de Béziers au tribunal n'ont rien pu faire. L'homme évadé, âgé de 27 ans, n'avait pas le statut de détenu particulièrement surveillé, même s'il avait déjà tenté de s'échapper.
18h08 sur France Inter, un ancien président entendu comme témoin à propos de la mort des deux journalistes de RFI.
Ghislaine Dupont et Claude Verlon tués au Mali en novembre 2013. Devant les juges d'instruction début janvier, François Hollande a dû s'expliquer sur des confidences faites à des journalistes. Des confidences faites avec l'ancien patron de la DGSE, Bernard Bajolet, lui aussi entendu par la justice. Bonsoir Thibaut Cavaillès.
Bonsoir Amélie.
Alors lors de ces apartés, il donnait une version du drame différente de ce que dit l'enquête pour l'instant.
Oui, deux événements relatés à Amélie par les deux hommes à des journalistes hors micro. Tout d'abord une conversation interceptée peu après le drame. Un probable commanditaire reprochant à un membre des ravisseurs d'avoir détruit la marchandise. Image peut-être pour évoquer Ghislaine Dupont et Claude Verlon. François Hollande l'aurait confié à un journaliste en décembre 2013. Bernard Bajolet le confirmait en octobre dernier, là aussi à des journalistes. Deuxième événement qui n'apparaît pas, celui-là dans l'instruction, la présence d'un hélicoptère le jour du meurtre et qui aurait fait paniquer le commando. Là encore, François Hollande l'aurait confié à des journalistes. Le collectif d'amis de Ghislaine et Claude et leur avocate Marie Dauzé ont obtenu que les deux hommes s'en expliquent devant les juges. C'était donc le 10 décembre dernier pour Bernard Bajolet, le 11 janvier pour François Hollande. Et l'un comme l'autre aurait alors assuré ne se souvenir de rien, ni hélicoptère, ni interception de conversation. Le collectif est courroucé. Pierre-Yves Schneider en est le porte-parole.
On a vraiment le sentiment d'être pris pour des imbéciles. Leurs réponses sont à chaque fois différentes, parfois contradictoires. Alors je dis bien qu'on nous prend pour des imbéciles. L'hypothèse qui est forte selon nous est que entre le commanditaire et l'exécutant, qui sont les deux personnes qui ont pu s'exprimer lors de cette écoute, bah, qu'il y en ait un dont on ne veut pas révéler l'identité, ou bien qu'ils ont dit quelque chose qui serait explosif. Ça sent l'embrouille.
Alors ces écoutes existent-elles vraiment? Qui les aurait effectuées? Et cet hélicoptère, qu'en est-il? Mensonge d'État ou mémoire courte? Le collectif et son avocate ne veulent pas en rester là et pourraient lancer des démarches pour faux témoignages et demander une déclassification, Amélie, de certains dossiers.
Merci Thibault. L'héritage de François Hollande, discuté, critiqué ouvertement au Parti Socialiste. Le nouveau patron du PS va faire ce soir l'inventaire de son quinquennat, 18 mois après la fin de son mandat. Trop tard, jugent certains. Nécessaire, disent les autres, surtout avant de se lancer dans la campagne des européennes. À droite, le chef des Républicains a tranché. Laurent Wauquiez désigne François-Xavier Bellamy comme tête de liste pour le scrutin du 26 mai prochain. Ce professeur de philosophie de 33 ans, anti-avortement, sera suivi sur la liste d'une proche de Valérie Pécresse, Agnès Evren, et de l'eurodéputé Arnaud Danjean. Le patronat, lui, claque la porte. Les organisations ont suspendu leur participation à la négociation sur l'assurance chômage. En cause, le bonus-malus que veut mettre en place Emmanuel Macron et les syndicats pour dissuader les entreprises de faire appel à trop de CDD. Le chef de l'État l'a redit hier, ce qui n'a pas plu au MEDEF ou encore à la CPME, les petites et moyennes entreprises, dont François Asselin est le président.
Soyons clairs, si l'exécutif vient mettre constamment de la friture sur la ligne, eh bien, ces corps intermédiaires constitués commencent un petit peu à se dire à quoi sert-on dans tout cela ? Nous sommes dans une négociation où on nous demande de régler cette inflation des contrats courts. Si les solutions que nous apportons à travers la négociation, quoi qu'elles soient, eh bien, soient balayées d'un revers de la main pour mettre en place le bonus-malus tel que l'entend l'exécutif, à quoi cela sert-il de perdre du temps à négocier ? Donc, nous avions une lettre de cadrage qui nous laissait une ouverture sur ce sujet-là. On a, par deux fois, le président de la République qui a effectivement publiquement dit que de toute façon, il mettra en place le bonus-malus. Il faut vraiment qu'on soit au clair pour savoir si on peut continuer à négocier ou si tout simplement la fin de l'histoire est déjà écrite.
François Asselin, le président de la CPME, joint par Laurent Kramer. En Grèce, le Premier ministre fait un geste sur le salaire minimum, une augmentation de 11% à partir du mois prochain. Ce salaire minimum va passer à 650 euros bruts, une première depuis 10 ans de réduction des salaires. Avant la crise, le salaire minimum était quand même nettement supérieur à 750 euros. Une catastrophe environnementale et humaine au Brésil. Après la rupture d'un barrage minier à Brumadinho, dans l'état du Minas Gerais, les autorités comptent 60 morts et environ 300 disparus. La région a déjà connu ce genre de drame il y a 3 ans. À chaque fois, des torrents de boue, des villages dévastés, les cours d'eau contaminés. Aujourd'hui, les secours brésiliens sont à pied d'œuvre. Le récit de notre correspondante sur place, Anne Vignat.
Les secours brésiliens sont épaulés par une équipe israélienne arrivée ce matin sur les lieux de la tragédie et qui utilise une technologie que le Brésil ne possède pas. Cependant, il y a très peu d'espoir maintenant de retrouver des survivants. Le nombre de disparus est objet de polémiques entre le géant minier Vale et la défense civile. Entre 298 et 315 personnes n'ont toujours pas donné signe de vie. 60 personnes sont aujourd'hui décédées. Après de vives critiques sur l'absence de responsables de Vale à Brumadinho, des réunions ont été organisées aujourd'hui avec les habitants. La justice brésilienne a gelé près de 3 milliards d'euros de l'entreprise, dont la valeur en bourse a perdu 23% depuis le début de la tragédie. Brumadinho, Anne Vignat, France Inter.
Et le conseil d'administration de la compagnie minière suspend le paiement des dividendes aux actionnaires et des primes pour les cadres. La justice bloque de son côté l'équivalent de 3 milliards de dollars sur les comptes de l'entreprise pour les réparations futures.
Amélie Perrier pour le journal, merci, à demain. Amélie Perrier pour Sous les radars, merci et à tout à l'heure.
Ah oui, à tout à l'heure, voilà. Je reviens, bah oui, oui, bah oui. 18h37. Ah oui. Je vais vous parler des eurodéputés qui visitent en ce moment les prisonniers politiques au Nicaragua. On ira aussi en Inde, les gardes du Taj Mahal s'équipent en lance-pierre pour lutter contre les singes. Et puis le Tchad vient de mettre au jour un site Sao. Les Sao, c'est un peuple aujourd'hui disparu et réputé pour ses pouvoirs surhumains, un peu comme nous, Fabienne.
Exactement, on verra ça, pas besoin de ça, nous on verra ça autour de 18h37, parce que nous avons la maîtrise de la pendule. Ce soir, nous allons aussi en Égypte et puis nous sommes en reportage au Maroc. Le téléphone sonne en deuxième heure. Je vous le remets en tête, on parle de la très très grande vieillesse. Ce soir, on nous promet à tous qu'on vivra 100 ans, mais est-ce qu'on a vraiment envie de vivre 100 ans et plus? Tout le monde n'est pas taillé pour faire du vélo, tout le monde n'a pas envie d'être jeune calmant. Est-ce qu'on peut être centenaire et heureux de l'être finalement? 01 45 24 7000.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Il y a des gens qui font non comme ça autour de la table en écoutant le thème du téléphone sonne. En même temps, sous le soleil, ça irait mieux, Jean-Pierre Hameau. Or, voici qu'une nouvelle perturbation nous arrive par l'ouest.
Effectivement, ouais. Et cette perturbation nommée Gabriel va apporter demain mardi des pluies soutenues sur une bonne moitié ouest du pays. Attention au risque élevé d'avalanches sur le massif pyrénéen. Et puis prévoyez quelques flocons avant la fin de la journée au nord de la Loire. Les vents d'ouest à nord-ouest seront aussi de la partie le long des côtes atlantiques. Attention, ils seront tempétueux en soirée la nuit suivante sur la bande littorale, avec des rafales dépassant largement la barre des 100 km par heure. La journée sera plus calme en allant vers l'est, sous un ciel souvent nuageux. Vous profiterez tout de même de belles éclaircies de la région PACA à la Franche-Comté.
Voilà, on a appris quand même que les perturbations avaient des prénoms désormais, Jean-Pierre. La neige en tout cas est annoncée dans la nuit de mardi à mercredi.
Oui, effectivement, des chutes de neige vont se renforcer en début de nuit au nord de la Loire, en particulier entre la Normandie, le nord de la région centre, l'Île-de-France et la Picardie. On attend en fin de nuit 5 à 10 cm dans ces régions et localement jusqu'à 15 cm.
Allez, merci beaucoup Jean-Pierre, on se retrouve après 19h.